Donc, je vous propose d'enchaîner sans entracte sur l'objet principal de la séance d'aujourd'hui. Alors déjà, je pose la question rituelle à la salle. Qui n'est pas adhérent à l'UTB? Levez bien haut. Voilà, c'est bien. Donc je rappelle que cette séance, elle a quand même pour objectif de faire connaître l'UTB aux gens qui ne sont pas adhérents. Et j'espère qu'après une heure et demie de mon exposé, soyez patients, vous serez convaincus de venir nous rejoindre. Voilà. Donc cet exposé, c'est celui que j'avais déjà fait. Traditionnellement, je fais un exposé au mois de mai à la fin de la saison précédente pour annoncer ce qui va se passer. Et là, je le fais au début de la nouvelle saison pour rappeler un petit peu le contenu de nos programmes. Donc, je rappelle que notre activité principale consiste à proposer des conférences culturelles avec un spectre de disciplines tout à fait varié. Donc, je passe très vite sur les généralités. Voilà. Alors, depuis quelques années, nous essayons de faire des thèmes transversaux. Que sont les thèmes transversaux? Ce sont des thèmes qui sont abordés par différents conférenciers. Bon, histoire de l'art, c'est quand même le socle de notre programmation. Là, on a 7 ou 8 conférenciers différents. Et donc, c'est intéressant parce que quelquefois, d'une année sur l'autre, on a un petit peu les mêmes artistes ou les mêmes œuvres qui sont analysées par des conférenciers différents. Et on voit chaque conférencier a sa sensibilité et sa façon d'analyser telle ou telle œuvre. Et donc, le grand axe de l'histoire de l'art, ça continuera à être les impressionnistes, puisque là, on a un réservoir quasi inépuisable d'artistes qui méritent d'être analysés. Alors, on continue sur le 19e siècle. On avait déjà commencé l'an dernier de parler du 19e siècle dans certains aspects. Le 19e siècle, c'est long et c'est varié. Enfin, le 19e siècle en France. Et on a pris un sous-thème très important, c'est tout ce qui tourne autour de la découverte de l'Égypte. Nous sommes quand même dans une ville qui a une... Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Égypte à l'UTB. Vous savez que nous sommes associés au nom de Vivant de Nom, hein. Mais on a fait beaucoup, beaucoup d'Égypte il y a une dizaine d'années. Donc on avait fait un petit peu une opération de sevrage et maintenant on revient un petit peu sur l'Égypte parce que ça passionne toujours les gens et il y a toujours des choses à apprendre, si vous voulez. Ensuite, on reparlera de la médecine. On a constaté depuis quelques années, on invite des médecins locaux ou même qui sont sur Lyon, qui nous font des conférences thématiques qui sont passionnantes et pour lesquelles il y a toujours beaucoup de monde. Hein. Donc on continue. Et on va parler d'un autre thème qui fait l'objet d'un atelier dans nos activités complémentaires, c'est les transformations rapides du monde contemporain, dans tous ces aspects, mais surtout dans l'aspect technologique, c'est-à-dire ce que l'on voit dans tous les journaux aujourd'hui, Internet, les nouvelles technologies, patati patata. Ça, c'est un monde absolument foisonnant, et on va en parler techniquement, mais on va en parler aussi d'une façon sociologique, c'est-à-dire quels sont les impacts de tous ces changements sur l'évolution de la société. Alors, on y va, là, c'est l'inventaire à la Prévert, donc histoire de l'art. J'avais 17 ou 8, vous voyez, j'avais pas révisé avant, c'est 14 conférenciers qui parlent d'histoire de l'art, et dans des aspects extrêmement différents. Donc, Anne XP, qui est une de nos fidèles, ça fait plus de 20 ans qu'elle vient chez nous, vous savez qu'elle a une addiction particulière à l'architecture, et donc elle nous propose cette année l'architecture brésilienne. Et donc, j'ai mis comme image... évidemment, les images iconiques de la ville de Brasilia et d'Oscar Niemeyer, que, à titre personnel, j'aime beaucoup. Accessoirement, nous avons un projet de voyage au Brésil l'année prochaine. À l'automne, certainement dans un an. Et on verra ça. entre autres, bien sûr. Histoire de l'art, donc, voilà la liste des impressionnistes qui seront abordés cette année par Claudie Roget. Hein. Donc, Renoir, bon, ça mérite deux séances, Basile. Marie Cassatt, donc l'américaine qui a œuvré en France, Eugène Boudin et Armand Guillaumin, qui est moins connu. Notre autre vedette, Damien Capellazzi, donc, nous propose une thématique autour de Vienne, et donc des musées de Vienne, et donc le musée de peinture de Vienne, la Kunsthistorische, et Klimt, bien sûr, qui est également une icône de la peinture d'Europe centrale. Alors, depuis deux ans, donc Mathieu Pinet, qui est également un conférencier, Mathieu Pinet, tout le monde le connaît, hein, qui est propriétaire du château de Germolles, qui fait beaucoup d'activités et d'animations dans son château. Mais en hiver, il fait beaucoup d'animations à l'UTB, donc, et des conférences et des ateliers d'histoire de l'art. Et donc voilà, alors il aime bien depuis un ou deux ans de faire des choses thématiques, c'est-à-dire par siècle, il prend un thème transversal, les chinoiseries de François Boucher, Hubert Robert et les ruines, l'Égypte, bien sûr, vous voyez déjà l'Égypte qui apparaît. Hein. Le Sueur et Petit, deux peintres français à la conquête de l'Australie, c'est-à-dire des peintres paysagistes, c'était une chose qui était très à la mode pour les explorateurs à la fin du 19e siècle, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et Un continent neuf, regard sur l'Amérique par la peinture européenne. Alors, M. Cousin nous fait toujours des sujets un petit peu atypiques, mais qui sont toujours très intéressants. Premier thème, les vanités. Alors, vous connaissez tous ce tableau des ambassadeurs, hein, qui est à la National Gallery à Londres, hein, qui est un tableau absolument magnifique. Et les vanités, eh bien, c'est une façon allégorique de représenter la fugacité de la vie humaine. Et donc on voit deux ambassadeurs français, d'ailleurs on les a identifiés, qui sont là chamarrés avec beaucoup de richesses, et on voit un machin bizarre qui est en travers, qu'on appelle l'os de sèche, qui est en fait une anamorphose de tête de mort. C'est-à-dire, si on regarde le tableau complètement tangentiellement, on voit que c'est un crâne, mais comme ça se voit pas. Et donc c'est une allégorie de la mort parmi la richesse, donc la vanité de la vie humaine. Et un autre que j'aime beaucoup, et c'est moi qui l'ai demandé à Frédéric Cousin, c'est Escher, donc, qui est tout à fait célèbre par ses dessins absolument extraordinaires. Là, vous voyez, ben, c'est un dessin à la pointe, hein, et on voit Escher, ben, c'est celui qu'on voit dans la boule, c'est-à-dire il s'est dessiné lui-même en reflet dans une bille de métallique. Voilà. Et vous admirez la technique. Hein. Escher, c'est celui qui fait les escaliers, vous savez, qui se mord la queue, hein, et qui semble toujours descendre, et en fait, ça se mord quand même la queue. Ensuite, autre thème transversal, le street art. Le street art, alors ça, c'est un truc qui est très, très à la mode, non pas les tags complètement épouvantable qu'on peut voir ici ou là, mais maintenant on a vraiment des gens qui font des choses absolument extraordinaires, et ça c'est, on n'a que l'embarras du choix pour choisir une illustration qui montre ce type d'activité artistique. Voilà, un architecte qui nous propose, alors, Alan Gray et Le Corbusier, donc des architectes du milieu du XXe siècle, et qui, vous voyez la chapelle de Ronchamp, par exemple, si ceux qui connaissent, là, dans la région de Montbéliard, hein, donc architecture moderne et mobilier moderne. Avant, ça, c'est des choses qui sont dans qui ont été faites dans l'entre-deux-guerres, donc elle était prémonitoire au niveau des tendances qui allaient venir après-guerre. Deuxième séquence sur l'histoire du vin. Donc, l'histoire du vin, on a eu, M. Beau nous a fait la partie art sacré, et là, on va faire la partie le vin et le plaisir. Et donc je choisis une peinture qui était plus illustrative de ces thématiques. Quelque chose d'atypique, le guignol. Guignol qui est quelque chose qui est très typique et lyonnais, comme vous le savez. Et donc on a invité la directrice du théâtre Guignol à Lyon pour nous parler qu'est-ce que le guignol, pourquoi il y a guignol et qu'est-ce que ça représente du point de vue sociologique. Alors, on m'a demandé à plusieurs reprises, et on a beaucoup de dames dans notre public, je vois Madame Michaud qui me regarde avec un regard intense, il n'y a pas assez de sujets féminins dans votre programmation. Alors, il faut, évidemment, moi je suis un homme, donc le parfum, c'est pas tellement mon truc, et on a trouvé une dame qui est spécialiste, et donc qui fait le parfum de l'origine à nos jours. Bon, on verra la technique, mais on verra aussi l'aspect sociologique du parfum. Quel est le rôle du parfum dans la société? Et quelle importance ça avait? Vous savez qu'on a découvert du parfum dans les tombes égyptiennes, donc c'est quelque chose qui est très ancien, et ça a une symbolique tout à fait particulière, le parfum. Et si vous êtes sage, on ira visiter, puisque à l'INRA à Dijon, il y a un laboratoire où on peut tester les parfums. Et donc, c'est pas très loin, donc on peut. Mais si vous êtes sage seulement. Alors, comme on est dans l'histoire locale, eh bien évidemment, c'était difficile d'échapper à Pompon, donc on va parler de Pompon, et on ira à Saulieu pour voir Pompon et ses sculptures. Voilà. Vous connaissez tous Pompon, bien sûr, sculpteur dijonnais. Hein. Comment? Non, vous ne connaissez pas. Ben, vous viendrez écouter la conférence. Hein. Disons, sculpteur animalier, très dépouillé, vous voyez. C'est tout à fait particulier. Dès qu'on voit ça, on sait que c'est Pompon. Hein. L'objet surréaliste. Alors ça, c'est une tentative... voilà un exemple, parce que l'objet surréaliste, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas classer, c'est-à-dire les collages, les choses comme ça qui sont très à la mode maintenant, eh bien, il y a un représentant d'une école américaine qui s'appelle Joseph Cornell, qui a un peu lancé cette mode dans l'art moderne. Donc vous voyez qu'on essaye d'inviter, une fois de plus, ça je le répète d'une façon... récurrente, on essaye d'inviter des nouveaux conférenciers en histoire de l'art pour un petit peu voir qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer, parce que chacun un petit peu sa palette. Bon, on a les classiques, on va dire Capellazzi, Annick Spee, Claudie Roget, là il n'y a pas de surprise, il suffit de prendre un bouquin d'histoire de l'art, on trouvera toujours quelque chose. Mais on a des domaines périphériques qu'on essaye d'explorer pour découvrir non seulement le sujet lui-même, mais également la qualité et l'expertise du nouveau ou de la nouvelle conférencière. Encore un sujet féminin, puisque c'était l'année un peu Napoléon l'année dernière, donc celui qui est venu pour les manifestations, cette année plus exactement, qui est venu donc Alain Pijard, qui est le président du souvenir napoléonien, qui est un très bon conférencier, qui a fait une conférence sur la Légion d'honneur, hein. Et donc la mode sous le directoire, le consulat et l'empire, et de la même manière, la mode est un marqueur sociologique, et elle a un rôle politique, presque, on va presque dire, enfin, sous Napoléon, c'était très clair. Hein. Alors, tout le monde a tiré un boulet rouge sur Napoléon, au sens propre et au sens figuré, mais on est obligé de constater que la mode qu'il avait imposée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, a été adoptée dans toutes les cours d'Europe, alors qu'on le vouait aux gémonies. Alors, quand on parle de l'Égypte, évidemment, on n'échappe pas aux pyramides, hein. Alors là, pareil, on a une conférence un petit peu transversale, c'est-à-dire la pyramide, elle existe dans beaucoup de civilisations, et quelle est sa signification symbolique dans les différentes civilisations? Vous savez qu'il y a des thèses qui ont dit que, comme il y avait des pyramides dans toutes les civilisations, ça, tout venait d'Égypte, donc, et même dans les civilisations précolombiennes. Non, la pyramide, elle a un avantage, c'est qu'elle est, c'est stable, si vous voulez, au niveau géométrique, et donc n'importe quelle civilisation invente d'une manière ou d'une autre une pyramide. C'est Thore Heyerdahl qui avait fait cette thèse-là, en disant « tout vient d'Égypte ». Bon, il s'était un peu trompé. Paix à son âme. Hein. Thore Heyerdahl, c'est celui qui a fait le Kon-Tiki, vous savez, avec le bateau en roseau qui a traversé le Pacifique. Alors, deuxième grand thème, c'est l'histoire. Alors, l'histoire, sous toutes ses facettes, sous toutes ses périodes, etc. Et donc, je passe le sommaire. Et donc, on a dit, on va revenir à l'Antiquité, puisque de la même manière que nous avions fait un petit peu un sevrage de l'Égypte, d'une façon générale, depuis une dizaine d'années, depuis que je suis là, d'aucuns ont pu dire, oh ben Fournier, il n'aime pas l'Antiquité. Hein. Mais on en avait eu tellement jusque-là qu'on a maintenant envie d'y retourner. Alors, je vous rassure tout de suite, j'adore l'Antiquité. Et non seulement mes goûts personnels, mais on a trouvé des conférenciers et des conférencières qui nous ont avoué, sous la torture, qu'elles adoraient aussi l'Antiquité. Et donc, on est allé au-delà de leur... et on a accepté... accepter le mot ne convient pas, on a accueilli avec grand plaisir des sujets antiquité, on va y venir. Donc nous avons réinvité Yann Richard. Yann Richard, c'est un spécialiste de l'Iran qui est venu il y a quelques années nous faire des choses sur l'Iran du XXe siècle. Et on lui a dit, faites-nous une histoire de l'Iran, de la Perse. Alors lui, il voulait tout faire en une année, donc il a dit, les meilleurs plaisirs, il faut les distiller au compte-goutte. Donc on commence par la partie antique de la Perse. Donc, il viendra faire deux conférences. Donc, c'est facile puisqu'il habite à Joncy. Vous savez qu'à Joncy, tous les maires de Joncy, depuis six générations, s'appellent Richard. Donc, c'est toute la même famille, c'est une dynastie de maires. Il a travaillé à Téhéran parce qu'il a dit, je sais faire qu'une seule chose, c'est parler le Parsi. Éventuellement, je peux vous parler de l'histoire de la Perse. Et merci Madame Roux. Madame Roux, elle m'écoute, elle est dans le fond de la salle. Donc, en discutant comme ça, Alexandre le Grand, je prends tout de suite, pas de problème. Et donc, on va se régaler avec Madame Roux et avec Alexandre le Grand. Voilà. Et on arrive à nouveau à l'expédition d'Égypte. Alors, on va parler de l'expédition d'Égypte, qui a beaucoup d'aspects, qui est très complexe. Alors, évidemment, on pense à l'aspect militaire, on pense à l'aspect politique, on pense à l'aspect archéologique. Mais tout ça, c'était très mélangé, et cette histoire est en fait assez complexe. Et donc, j'espère que c'est un nouveau conférencier qui nous a proposé cette séance. Vous voyez, c'est un spécialiste de l'histoire, puisqu'il est huissier de justice. Enfin, il était huissier de justice, mais on m'en a dit grand cas, et c'est un mâconnais. Donc, il va nous expliquer tout ça. Et également, alors là, je n'ai pas résisté au plaisir, nous allons faire une animation à la bibliothèque municipale de Châlons, et on va sortir, la description de l'Égypte. Vous savez, la description de l'Égypte, c'est la somme monumentale avec les belles gravures de tous les monuments qui ont été relevés par les savants qui étaient dans l'expédition d'Égypte. Et alors là, c'est absolument extraordinaire parce que les planches font 1 mètre carré. Et quand vous voyez la qualité picturale et la qualité technique des gravures, c'est à vous couper le souffle. Par contre, c'est pas sorti depuis 10 ans. C'est d'ailleurs dans un meuble spécial parce que ça dépasse les formats, le in-folio classique qui est plus petit que le format de la description d'Égypte. Donc, ce sera fin mars. On aura 2 séances. Donc, venez voir ça parce que là, on va se régaler. On nous les a ressortis. Moi, je les avais déjà vus. Quand on y est retourné les voir, on est ressorti, le souffle coupé. C'est extraordinaire. on va avoir la conférence symétrique. Donc M. Ahmed Djebbar, qui nous fait d'habitude des conférences sur l'histoire des sciences et sur les mathématiques, il a dit, ben, tiens, je vous propose, comme vous faites des choses sur l'Égypte, ben, quelle a été la perception de l'expédition d'Égypte par les Égyptiens? Intéressant, hein? Voilà. Donc je rappelle que M. Ahmed Djebbar, qui est maintenant un de nos fidèles, il a été quand même ministre de l'éducation nationale en Algérie de 92 à 94. Donc on le remercie chaque fois, et c'est un bon copain maintenant de venir nous rendre visite, parce qu'en plus c'est un conférencier absolument passionnant. Si vous voulez le voir de temps en temps, il passe très souvent à la télé, le dimanche matin, avant les émissions catholiques et protestantes, il y a le quart d'heure musulman, et une fois sur trois, il est là dans des débats, et il est absolument passionnant. Ah, voilà la cheville ouvrière de l'expédition d'Égypte. C'est Gaspard Monge. Gaspard Monge, je l'ai un peu redécouvert parce que, comme vous, on a travaillé sur Lazare Carnot, comme je disais tout à l'heure. Gaspard Monge, c'est un Beaunois. Mais il a eu un rôle tout à fait considérable dans la période révolutionnaire, dans la période napoléonienne, puisqu'on peut dire d'une certaine façon c'est lui qui a inventé l'école polytechnique et qui en a été le premier directeur. Et c'est lui qui a été le chef pilleur de Bonaparte dans les deux campagnes d'Égypte, qui pillait les musées pour le compte de Bonaparte. Et tout en étant aussi fervent républicain que Lazare Carnot, lui, il a eu une histoire d'amour avec Napoléon. C'est-à-dire, Napoléon, il était fasciné par Napoléon, tout en étant extrêmement républicain. Donc, c'est les paradoxes. On dit qu'il était carriériste et tout. En fait, ça a marché avec eux. Avec Carnot, ça n'a pas marché, parce que deux têtes de l'art comme Bonaparte et Carnot, ça ne pouvait pas marcher. Quel était celui qui allait écrabouiller les arpions de l'autre, hein, c'est à peu près ça. Donc, avec Carnot, il pouvait y avoir qu'un chef dans le bateau. Donc, comme c'était Napoléon, eh ben, ça ne pouvait pas être Carnot. Mais ça, vous lirez notre ouvrage. Carnot est aussi passionnant. D'ailleurs, Carnot, on vous fera une conférence sur Carnot, bien évidemment, mais à plusieurs voix, puisqu'il y a 7 personnes de l'UTB qui ont participé à rédiger des chapitres sur Carnot, dont Jean-Paul Dayou ici, et qui a fait beaucoup d'analyses sur les textes politiques certains textes politiques de Lazare Carnot. Ah, là, vous le voyez en uniforme républicain, on va dire, et là en uniforme napoléonien. Zut. Voilà. Bien, alors pourquoi en partenariat avec l'UTB de Beaune? Parce que j'ai eu du mal. Alors j'ai dit à Beaune, on va trouver des gens qui nous parlent de Monge d'une façon intelligente, c'est un natif de Beaune. Ben non, il n'y a personne à Beaune qui s'est parlé de Gaspard Monge, c'est une honte. On a fini par me donner ce nom-là, que j'avais déjà identifié, puisque c'est le bouquin dont je me suis servi pour faire la bio de Monge dans le bouquin de Lazare Carnot. Et j'ai trouvé ce gars-là, il a accepté de venir, il habite à La Rochelle, donc c'est un peu loin. Donc on a fait un groupage avec Baud. Hein. Et donc on va écouter. Alors Monge, vous allez découvrir, c'est un personnage. Monge, il a inventé aussi ce qu'on appelle, pour les gens qui aiment la technique, la géométrie descriptive. Hein. C'est un mathématicien. Hein, il était professeur à l'école du génie de Mézières. Mais j'arrête parce que je veux faire la conférence. Donc ensuite, Champollion, évidemment, incontournable autour du décryptage des hiéroglyphes. Et donc, on a le biographe officiel de Champollion qui viendra donc de la région de Grenoble, puisqu'il a été préfet de l'Isère dans la fin de sa carrière. Hein. Mais il a fait des tas de choses. Bon, vous l'écouterez. Et on va parler d'un autre homme, donc vous le reconnaissez, Talleyrand, et donc le rôle très controversé qu'il a eu dans la période révolutionnaire et napoléonienne et post-napoléonienne. Et donc, M. Philippe Clémenceau, j'ai plutôt compris, vous le connaissez tous, il nous a fait beaucoup de conférences sur l'histoire médiévale, il est tout à fait passionnant, et c'est lui qui nous a proposé ce sujet-là. et j'ai compris qu'il était plutôt pro-Talleyrand. C'est-à-dire, on l'a un peu trop voué aux gémonies. On l'écoutera. Le 19e siècle, il y a un autre aspect, un autre événement qu'on oublie un petit peu, c'est la conquête de l'Algérie. Et donc, avant les événements que les uns et les autres ici ont vécu à des degrés divers. Donc, cette conquête de l'Algérie, c'est en fait très complexe, et Madame Guérin a accepté de cette immense tâche de faire ça en 3 séances, parce que c'est très compliqué. Et c'est très compliqué et très méconnu. Donc c'est pour ça que ça valait le coup d'avoir ça en contrepoint de ce qu'on a pu faire l'année dernière, par exemple, autour du Second Empire, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi là, quelque chose qui est incontournable, c'est le canal de Suez. Alors, on parlera du canal de Suez et du canal de Panama, puisque c'est son fils... spirituel, on va dire, le canal de Panama, et donc Ferdinand Lesseps, belle moustache, et surtout toutes les spéculations financières qui ont suivi ou accompagné ces événements. Vous savez qu'en ce moment, le canal de Panama, il vient juste d'être réélargi, et ça a été très récemment... inauguré là pour passer à des gabarits supérieurs, et donc on verra le point très important de tout ce qui s'est passé autour de ces deux canaux. Donc c'est Robert Castry qui nous fera ça. Et dernier grand sujet du 19e qui est un petit peu incontournable, puisqu'on avait fait, on avait balayé tout le Second Empire en occultant un petit peu la guerre de 70 et ses conséquences, c'est-à-dire la Commune de Paris. Donc, Monique Roux nous fera 2 séances sur la Commune de Paris, sujet éminemment complexe aussi, et beaucoup moins caricatural qu'on pourrait l'imaginer, quelles que soient les opinions, parce que c'est très marqué politiquement, évidemment, mais on verra, je fais confiance à Monique Roux, elle nous fera ça très bien. Alors, moi, j'ai demandé cette conférence-là, Karl Marx, je rappelle que Madame Ruiz, il me semble que je l'ai vue dans le public, elle est là, Madame Ruiz, oui, je l'ai vue. Elle nous a fait les théories économiques de Marx, qui est déjà une gageure, parce que c'est pas facile à expliquer. On ne connaît pas, on connaît, de mon point de vue, on connaît très mal la vie de Karl Marx et dans quel contexte il a fait ce qu'il a fait. Robert Chantin a accepté cette tâche-là. Je rappelle que Karl Marx était un beau gars quand il était jeune. Vous le voyez, évidemment, ça s'est dégradé sur le tard. Mais il était sale comme un peigne. Il a failli mourir plusieurs fois de septicémie parce qu'il ne se lavait pas. Évidemment, avec une tignasse pareille, c'était pas facile. Voilà. Un autre personnage incontournable, qui est fascinant de mon point de vue, et donc on a la chance, et j'ai déjà écouté cette conférence, d'avoir à portée de fusil M. Alain Kersaudy, qui a fait la dernière biographie autorisée, qui fait autorité sur Winston Churchill, que j'ai lue, qui est passionnante, et il habite à Nuit-Saint-Georges. Donc, je suis allé l'écouter, et il est extraordinaire parce que ce monsieur Kersaudy, il est professeur d'histoire, mais il a enseigné à Oxford. Donc, il est parfaitement bilingue. Et il a un don particulier d'imitateur. C'est-à-dire, il sait imiter Winston Churchill en anglais et en français. Et alors là, je vous dis, simplement pour ça, venez écouter la conférence, parce que on est plié. Il est extraordinaire. Et vous savez, c'était Monsieur Bonmot. Alors là, François Hollande, il est battu à plate couture. Monsieur Churchill, il était à 10 coudées au-delà de Monsieur Bonmot. C'était dans sa nature. Et donc, il avait aussi une ascendance. Vous savez que c'est un descendant de Marlborough. Marlborough s'en va en guerre, du duc de Marlborough. Lui, il n'est pas duc puisqu'il c'est un cadet. D'ailleurs, ça, son grand malheur. Mais enfin, il a laissé sa place dans l'histoire, vous le savez tous. Et donc, au lieu de choisir un sujet qui soit, puisqu'on avait beaucoup parlé de la guerre 14 l'année dernière, on a choisi le sujet de la période guerre 14 Churchill. Parce que ça, on a oublié ou on ignore cet aspect-là. Churchill a été ministre au gouvernement avant la guerre et pendant la guerre de 14-18. Les Dardanelles lui ont coûté son Marocain, comme on dit en France, mais on en parlera, etc. Et quand il a été viré du gouvernement, eh bien, il s'est engagé dans l'armée, et vous le voyez, en uniforme, avec un casque français. Vous reconnaissez un casque français de la guerre 14-18. Et il a été 18 mois sur le front. Tous ses copains sont morts dans les bombardements, lui, il est passé à travers. Il est mort à 91 ans, hein, avec une bouteille de sherry, une bouteille de whisky par jour, depuis l'âge de 16 ans. Et le cigare, j'en parle même pas. Hein. Donc Churchill, c'est un personnage. Donc venez écouter Churchill. C'est Robert Chantin qui nous a proposé ça. Il y a des thèses d'historiens qui disent, normalement, on aurait dû gagner la guerre 14, stratégiquement on avait les moyens de le faire, et on l'a perdu, on l'a finalement gagné, mais vous le savez, avec l'arrivée des Américains, etc. Mais enfin, la première année, selon lui, on aurait dû enfoncer les Allemands, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, en 1940, on a été enfoncé, et lui a une thèse, enfin, c'est pas sa thèse, mais la thèse de certains historiens qui disent, normalement, on aurait dû bien résister. Alors, on l'a pas fait. Donc, il va nous expliquer ces thèses-là, qui sont pas forcément ses thèses, mais qui représentent certaines sensibilités parmi certains historiens. Je sais bien qu'on fait pas l'histoire, mais on a envie, on aurait envie de faire. Donc en histoire contemporaine, le monsieur Farin continue son cycle sur l'Europe centrale, et là on arrive quand même à la période récente, donc vous voyez Yalta et puis la chute du mur de Berlin, et vous verrez monsieur Benoît ensuite qui va faire la suite après la chute du mur de Berlin. Donc on aura fait le cycle sur l'histoire de l'Europe centrale. À monsieur Lyon-Delphin, qui vient depuis quelques années, nous a proposé, alors je lui ai demandé, il nous a fait des sujets très divers, je lui ai demandé sa liste de conférences, il y en avait 120, donc il est à la jauge de l'UTB, et dans des domaines extrêmement divers. Et donc on a choisi ce premier sujet, qui est l'histoire de l'enseignement primaire en France. Complètement méconnue aussi. Hein, donc on pense à la Troisième République, l'école de la République, les hussards de la République, etc. Mais ça, Madame Roux nous l'a un peu expliqué avec le petit Lavis. Hein, mais on va revenir un petit peu en arrière et comment la transition entre l'enseignement, on va dire, religieux et l'enseignement, pour pas dire laïque, plutôt civil, va se mettre en place tout doucement. Alors Amazon, ça fait la troisième année que je le mets au programme, qu'on n'a toujours pas fait, parce qu'on en est au cinquième directeur d'Amazon à Sevray. Donc dès que j'ai convenu quelque chose avec un directeur, il disparaît. Donc ça doit être lié à la... Et il y avait aussi des conflits sociaux, donc on met ça sur la... Et donc rien n'est gagné, mais rien n'est perdu. Voilà. Alors ça, c'est Jeff Bezos, avec son look actuel, hein, parce que quand il était plus jeune, il n'avait pas la bille à zéro comme ça. Hein. Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon. Amazon, qui est une vieille société dans les nouvelles technologies. Et là, c'est une société qui a plus de 20 ans, donc c'est une société antique. Hein. En histoire industrielle, Solvay à Tavaux, hein, Solvay à Tavaux et ailleurs, hein, donc Solvay c'est un Belge, hein, donc une grande boîte de chimie, mais Solvay est aussi important parce qu'il y a eu au début du XXe siècle les congrès Solvay, c'est-à-dire des congrès scientifiques où toute la fine fleur de la physique et de la chimie se réunissait, et vous avez des photos de famille, vous voyez les Einstein, les Curie, les Heisenberg, tout ce que vous voulez, Pauli, Niels Bohr, etc., qui sont autour d'une table et ça causait. Bon. Et donc c'est quelqu'un. Et on va voir une histoire de... On a mis Schneider électrique. Alors vous savez que Schneider dans la métallurgie a disparu en 1986, on le sait bien ici à Chalon, quand les chantiers de Chalon ont fermé. Donc Schneider métallurgie n'existe plus. Mais la société a continué puisqu'elle s'est recentrée sur l'électromécanique, on va dire, pour faire court. Et donc c'est une société qui est puissante et mondialisé, comme le dit le titre. Et là, j'ai entendu ce conférencier, je l'ai connu à l'Académie Bourdon, il est très bon. C'est un historien qui vit de ses conférences et de ses bouquins. Il faut le faire, quand même. Tous les historiens n'y arrivent pas. Et depuis qu'il est sorti de l'école. Donc il travaille essentiellement pour faire l'histoire des sociétés, parce que les sociétés, elles ont des moyens financiers qui permettent de faire des monographies sur leur histoire. Et donc Schneider Electric n'a pas renié son passé du Creusot, on va dire. Et donc il y a des bouquins. Là, je lis ce bouquin. Là, c'est un magnifique bouquin. Et donc, il part des origines des formes du Creusot. Alors, voilà ma conférence de l'année, histoire de l'informatique. Alors là, je n'ai pas résisté. J'ai mis Bill Gates aujourd'hui il a 60 ans, voilà à peu près à quoi il ressemble, à droite, là. Vous le reconnaissez, enfin il est dans tous les journaux, et voilà quand il avait 20 ans. C'était lui le directeur de sa boîte où il y avait 6 personnes, à Albuquerque. Il a commencé à Albuquerque, vous ne savez pas où c'est le Albuquerque, c'est dans le Nouveau-Mexique. Et ne dites pas Albuquerque à un Américain, il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Albuquerque. Albuquerque. Et là, vous reconnaissez Steve Jobs, donc Apple, donc jeune, belle gueule, vieux, malade, et qui est décédé en 2011. Et donc, ces deux personnes, au-delà des avatars de leur société, je les ai mises d'une façon symbolique, pour dire qu'est-ce que c'est que... Alors, l'histoire de l'informatique, j'essaierai de faire le moins de technique possible. Et de dire, le message que je veux faire passer, c'est de dire, c'est parce qu'il y a eu des personnalités tout à fait particulières, celles-là sont iconiques, que l'informatique est ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas que cela, mais il y en a d'autres. Et ça aurait pu être complètement différent. Ces deux-là n'auraient pas existé, l'informatique se serait développée de toute façon, mais il pourrait y avoir 10 fois moins d'ordinateurs qu'il y en a aujourd'hui et il coûterait 10 fois plus cher. Mais une fois de plus, on ne fait pas l'histoire, c'est comme ça, et l'informatique, par un concours de circonstances qui n'a pas été véritablement voulu par les différents acteurs, a fait qu'elle est pas chère et très répandue. J'essaierai de vous faire comprendre pourquoi. On avait eu l'an dernier un gars le lama Senam. Donc, moi, je m'attendais à le voir arriver en robe de bonze. Et il vient en costume cravate, tiré à 4 épingles, barbe magnifiquement taillée, cadre dynamique en retraite, ce qu'il est d'ailleurs. Et il s'appelle Jean-Paul Cantillon. Et il est au temple des 1000 Bouddhas de Toulon, il est lama. Ah, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faisiez dans le civil ? Ah ben j'étais chef de service informatique à la commission de Bruxelles. Ah bon ? Donc ça ne l'a pas empêché d'être adepte du bouddhisme. Voilà. Et il nous a expliqué la philosophie bouddhiste, puisque c'est plus une philosophie qu'une religion, au sens religion du livre. Et donc, en plus il est très bon, au niveau exposé. Donc je lui ai demandé de revenir pour nous faire l'histoire du bouddhisme, c'est-à-dire, comme toutes les religions, le grand chariot, le petit véhicule, le grand véhicule, le machin, le bidule et le truc, le shintoïsme, c'est très compliqué comme toutes les religions, et il va nous expliquer tout ça. Et donc, troisième conférence de M. Lyon-Delphin, la déchristianisation en Europe et en France. Alors, ça c'est une tarte à la crème de dire que ça s'est déchristianisé, mais en fait le phénomène est très complexe et ses causes sont très complexes aussi. Donc il nous l'expliquera par le détail. On a le frère Raphaël. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai invité, mais donc il y avait quelqu'un du comité des programmes qui avait une connexion avec l'abbaye de Cîteaux. Je vous recommande le fromage de Cîteaux. On ira visiter et vous acheter. Il y a une boutique, c'est délicieux. Hein. Et donc, en principe, ils vont pas à l'extérieur, expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Ben, là, il accepte de venir. Donc venez l'écouter. C'est quand même des intellectuels, hein, les moines de Cîteaux. Donc je pense que ce sera intéressant. Enfin, là, c'est tout ce qui reste, c'est la bibliothèque. Hein. À Cîteaux, il y a un truc. Qui n'est jamais allé à Cîteaux, là? Tout le monde est allé à Cîteaux. Bon, ben alors. Je me demande pourquoi on a fait cette conférence. Hein. Donc vous connaissez le fromage. Alors, en archéologie, histoire des civilisations, histoire du fer en Afrique de l'Ouest, donc je rappelle que M. Guichard, qui est le directeur du site de Bivrac, vient tous les ans à la fin de la saison et nous propose une conférence sur l'exposition qu'il a préparée pour l'année suivante. Alors, il m'engueule chaque année parce qu'il pose son sac et je lui pose la question. Avant de lui dire bonjour, je lui dis « qu'est-ce que vous faites l'année prochaine ?» Oui, mais laissez-moi le temps d'arriver, je ne sais même pas encore quelle exposition je vais faire l'année prochaine. Donc, alors cette fois-là, il le savait, donc il nous a donné le sujet. Et donc François Lapeyrotte qui est dans la salle, là, qui vous savez, qui nous a fait des conférences sur les écritures antiques il y a quelques années, là, donc nous a reproposé, donc non pas l'écriture, mais ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire le support de l'écriture. Vous voyez une tablette d'argile cunéiforme. Enfin, je suppose qu'il va nous parler des papyrus et de tout le reste. Hein. C'est prévu, c'est ça. Hein. Bon. Alors, là, on a la chance. On a fait une grosse pêche. Hein. C'est, vous savez que la réplique de la grotte Chauvet vient de s'ouvrir. On ira voir la réplique de la grotte Chauvet. Ça, c'est pas difficile. Mais on a surtout Jean-Claude qui a été, non pas le découvreur, mais enfin celui qui a analysé les peintures rupestres qui sont dans cette grotte, vous savez, qui est donc là, en dehors de leur aspect magnifique, hein, au niveau qualité picturale, c'est fantastique, mais en plus, on a découvert, et ça c'était contre toutes les présupposés des archéologues jusque-là, qu'elles avaient plus de 30 000 ans d'âge, donc deux fois plus vieille que les grottes, celles de la grotte de Lascaux. Et on ne pensait pas qu'il y avait des peintures de l'art pariétal aussi anciennes que ça, donc en France. Donc il va nous l'expliquer. Et comme il vient, on fait un package pour en profiter au maximum. Donc il nous fait le rôle de l'UNESCO dans toutes ses actions, si vous voulez. Donc ce sera c'est tout à fait au début de la saison. Là, c'est la première semaine d'octobre. Littérature. Alors, Stéphane Le Quiddick, ben, on va balayer aussi le 19e, donc on a choisi. Donc là, on fait la totale, le théâtre romantique, le théâtre facile, le théâtre de boulevard, le théâtre en marge, donc c'est le grand guignol. Donc, vous avez... Alors, je fais... Alors, qui est ce monsieur? Le quiz. Musset. Qui est ce monsieur? La biche. Qui est cette chose-là? Voilà, donc c'est bien, 1 sur 3. Mon grand guignol, là, c'est marqué. Non, mais je vérifie que vous ne dormez pas. Hein. Victor Hugo insolite. Alors, Victor Hugo, on pourrait faire des conférences... jusqu'à l'écœurement. Donc on a choisi, enfin Daniel Clauss, qui vient depuis de très nombreuses années, va nous parler de ces faces un petit peu bizarres, c'est-à-dire pas bizarres. Donc vous savez qu'il a une œuvre graphique, il adorait dessiner à l'encre des croquis un petit peu surréalistes. Hein. Donc, il y a une caricature qui le montre là, et puis c'était la mode du spiritisme où on faisait tourner les tables. Donc il était adepte de ça comme... Donc voilà, et ensuite, Michel Bonnet qui nous fait des conférences sur l'histoire des médias, donc qui nous a proposé la presse satirique sous la Ve République, et là vous reconnaissez des dessins du Canard enchaîné, donc la cour, hein, c'est Moissant hein, qui faisait ça, hein, et donc, bon, la presse satirique sous la Ve République, on va bien s'amuser. Alors, on arrive sur les impacts des nouvelles technologies sur la société. Alors là, j'ai trouvé une image qui est pas mal, là, ras-le-bol de la pub. Donc, on peut tous témoigner qu'on est un petit peu envahi de tous côtés par l'informatique, c'est sympa, j'en suis un grand utilisateur, mais quelquefois c'est un peu pénible. La télé, les journaux et tout ça, et donc on est quand même un peu saturé par les choses. Et donc M. Robert Bourvis, c'est un ancien publiciste qui est venu l'an dernier pour faire un sujet complètement différent et qui a accepté de venir nous parler de la déstabilisation de l'industrie de la publicité par l'informatique, Internet et tutti quanti. Autre angle d'attaque de ce sujet-là, c'est ce qu'on la tarte à la crème actuelle dans tous les journaux, le big data. Qu'est-ce que c'est que le big data? C'est l'océan de données qu'on collecte et qu'on manipule à travers Internet. Et alors là, ce que je vous montre là, on voit pas bien ce que c'est pas un camp de concentration, mais tout juste. Hein, c'est un centre de données où vous avez tout ce que vous voyez là, les petites lumières vertes là sur le côté, c'est un ordinateur. Et là, vous avez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'ordinateurs dans un même hangar qui sont des serveurs informatiques qui font tourner tout ce qui se passe sur le monde, et en particulier la NSA, la fameuse NSA qui a été qui nous espionne toutes les microsecondes. Elle a des installations de ce type-là. Comment ? Donc, le big data, on ne fera pas de technique. Hein. Donc, Michel Bonnet, qui est tout à fait... J'ai cherché, parce que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui puisse adresser tous les aspects du problème. De la technique, de la sociologie, de l'ethnologie, du comportemental, etc., etc. Et même ceux qui sont dans le sujet ont du mal à dire qu'est-ce qui va se passer, bon, on ne sait pas trop. D'ailleurs, en conclusion de ma conférence sur l'histoire de l'électronique, ce n'est pas de l'histoire, j'essaierai de faire de la prospective, parce que dire l'histoire de l'informatique, c'est presque un oxymore. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une histoire d'un truc qui a 70 ans. Hein. Il faut avoir le temps du recul, mais ça va tellement vite qu'une chose qui a 10 ans en informatique, c'est antédiluvien. Hein. Voilà. Alors, un petit clin d'œil, voilà, les économistes sont-ils nuls? Sujet très à la mode aussi, et donc il y a quelqu'un qui nous a proposé ce sujet. Hein. On ne l'a pas inventé, donc on a pris tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous voyez la variété des angles d'attaque, on essaye de pas trop s'approfondir sur des choses très techniques qui sont difficiles à faire passer dans le cadre d'une conférence, mais de regarder l'impact de toutes ces évolutions sur nos sociétés. Et bien là, on va en prendre un plus vieux, Gustave Le Bon, bien connu. Enfin, qui connaît Gustave Le Bon? Levez tous le doigt. Psychologie des foules. C'est un des pionniers de la sociologie, début du XXe siècle. Et il a fait un livre qui dit « On peut manipuler les foules ». On a dit, et ça c'est certainement vrai, Hitler, c'était son livre de chevet. Et quand on lit ça qui a été écrit au tout début du XXe siècle, il y a des descriptions qui ressemblent furieusement au grand Raout à Nuremberg des choses hitlériennes. C'est quand même assez impressionnant. Donc, sociologie des groupes. Alors, évidemment, on ne parle pas que de ça. Hein. Donc, je rappelle que M. Moni, qui est le directeur de l'IUT, il a une formation de sociologue. Il nous a fait des choses un petit peu transversales sur la sociologie. Maintenant, on adresse la sociologie en tranches, parce que maintenant ça se découpe comme un gâteau en tranches, la sociologie des groupes, la sociologie de l'éducation, la sociologie de ceci, la sociologie de cela. Donc là on a pris les groupes. Et en plus, comme il est très bon et très pédagogue, je vous engage à venir l'écouter. Alors là, je vais. Donc, on vient à nos philosophes. Donc, philosophie et religion chez Leibniz, c'est le triomphe de l'empirisme, la philosophie de Newton. Monsieur Michel Le Pilouer, ici présent, notre philosophe de service, va nous expliquer tout ça. Alors, évidemment, j'ai mis leurs deux portraits, et je rappelle, il m'a demandé de rappeler que j'avais fait une biographie d'Isaac Newton, il y a quelques années, et une biographie de Leibniz, puisque, en fait, en faisant Newton, on tombe sur Leibniz. Et ensuite, M. Pierre Guénantia, qui est déjà venu aussi, nous parlera de Destin et Liberté chez Leibniz. Ces deux individus-là sont complètement contemporains. Hein. Leibniz est mort un petit peu avant Newton. Donc, Leibniz, c'est le continent, et Newton, c'est l'Angleterre. Et ils sont nés quasiment la même année, et la même année que Louis XIV. Donc, ça vous les situe dans le temps. Hein. Donc, les dates de Leibniz, c'est pratiquement celle de Louis XIV. Hein. En philosophie, donc 20e siècle, Michel Foucault, donc Arlette Mougin nous parlera de Michel Foucault, et Alain, figure anticonformiste de la République. Je mets les photos parce que très souvent on connaît les noms, mais on ne connaît pas les visages des. Bon, Foucault on le connaît, mais Alain, dans un trombinoscope, ça ne saute pas aux yeux des gens. Hein, il n'est pas connu par sa figure. Hein. À nouveau Internet, droit à la vie privée et Internet, donc c'est une conférence de droit, là, et donc Dieu sait si c'est d'actualité. Alors j'en profite pour faire une incidente. Nous avons un groupe qui s'appelle Éthique et Société, et le sujet de cette année, c'est l'influence des nouvelles technologies sur la société. Et donc, si ça marche bien, eh bien, on fera peut-être à la fin de la saison un colloque sur cette thématique-là. Alors, venons sur la géopolitique. Donc, M. Véron, qui est le chinois de service et qui nous est fidèle aussi, hein, je rappelle que M. Lionel Véron nous vient, et c'est le seul occidental qui fait des cours au cadre supérieur du Parti communiste chinois en chinois. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il vient ici. Donc, c'est une de nos vedettes. Donc, et en plus, il est très bon au niveau conférence. Et c'est lui qui a souhaité, il a dit, ça va tellement vite en Chine, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est il y a 3 ans, il faut tout réviser. Et vous lisez les journaux comme tout le monde, vous sentez qu'il y a un peu de flottement, côté de la Chine, pas de flottement, mais de ralentissement dans la Chine. Il va nous parler de tout ça. Et donc, comme on s'était arrêté avec M. Farinck à la chute du mur de Berlin, eh bien, on enchaîne tout de suite, et donc les deux périodes, donc la période Yeltsin et celui-là, Gorbatchev, et l'autre, tout le monde le reconnaît, il est plus jeune, là. Poutine, à la russe, Poutine. Monsieur Lyonnais nous parle des mégapoles états-uniennes et canadiennes. Disons, c'est la continuité de son cycle de l'an dernier. Et voilà, une tarte à la crème. Alors, Madame Ruiz, elle a fait le Karl Marx et la plus-value. Et donc, on a dit, l'endettement de l'État, voilà une tarte à la crème. Tout le monde en parle, tout le monde est endetté, c'est la catastrophe, tout va se casser la gueule, et le ciel ne nous est pas encore tombé sur la tête, mais bon, donc il faut parler de ça, parce que c'est d'une façon rationnelle. Et Madame Ruiz, c'est une rationnelle, puisque c'est une professeure d'économie. Hein, faut sortir du fantasme, voilà. Alors, on revient à l'Égypte, hein, les crises égyptiennes. Alors, on va remonter jusqu'au roi Farouk, hein. On ne veut pas remonter jusqu'à Ramsès. Hein. On va faire court, ça suffit, il y a de quoi faire de Farouk, Nasser, et puis jusqu'à maintenant. Hein. Il y a suffisamment de matériaux. Donc, j'ai mis la place célèbre là. Et donc, M. Garneret, qui est un homme qui s'est très bien analysé et qui se passionne pour les sujets, disons, de développement, on va dire, pour ne pas dire de sous-développement, puisque maintenant, ce n'est pas politiquement correct comme expression, donc de développement, dit est-ce que l'Afrique, bien qu'elle soit actuellement en expansion économique, au sens monétaire du terme, est-ce qu'elle pourra nourrir toute sa population ? Alors voilà, deux conférences de géopolitique. Alors je rappelle que l'an dernier, M. Alain Koldefi est venu nous voir, mais je devrais, pour bien le situer, ce monsieur Alain Koldefi, c'est l'amiral Alain Koldefi. Donc c'était le numéro 2 des armées. Hein. Donc c'était le pacha du Foch. En plus, il est très sympathique, ce qui ne gâche rien, et il connaît toutes les arcanes des analyses stratégiques. Alors lui, c'est un marin, donc il avait commencé par nous proposer les fusées. Donc pourquoi il nous a proposé les fusées ? Parce qu'il était consultant chez EADS jusqu'à une période récente. Donc il connaît un peu le sujet. Mais il a dit, il a fait du revenez-y, je voudrais bien vous parler quand même des bateaux, hein, parce que c'était mon truc, quoi. Et ben, donc il nous parlera des bateaux. Alors, un sujet qu'on a envie de mettre depuis de nombreuses années, mais on a enfin trouver quelqu'un qui veuille bien en parler, c'est la géopolitique des mondes polaires. Vous savez que ça revient à la mode avec le réchauffement climatique et le fait qu'on veuille faire des petits trous dans l'Arctique pour pomper du pétrole et je ne sais quoi, quel minerai, et puis chacun montre les dents. Je rappelle qu'il y a un traité international qui interdit jusqu'à présent l'exploitation de cette zone-là et qu'elle est... propriété, comment dire, partagée de l'ensemble des autres pays. Donc Stéphane Niveau, directeur du Centre polaire Paul-Émile Victor de Prémanon. Prémanon, ça vous dit quelque chose, c'est pas loin d'ici, hein, dans le Jura. Et il se trouve que son chef, c'est Jean-Christophe Victor, celui qui fait l'émission sur Arte. Donc Jean-Christophe Victor, c'est le fils de Paul-Émile Victor. Alors lui, il a un agenda et un tarif qui n'est pas à la mesure de la caisse de l'UTB. Donc on a pris son adjoint qui a accepté nos conditions. Voilà. Mais comme en plus il habite juste à côté, donc il nous parlera de ce sujet. Alors, autre sujet, les thérapies géniques. Ça aussi, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Donc Madame Salvadori qui est déjà venue. Là, vous prenez du PEPS, parce que c'est costaud, hein, quand même, pour comprendre un peu toutes ces arcanes. Et l'évolution du diagnostic et des traitements des valvulopathies, je rappelle que le docteur Dellinger, le cardiologue bien connu de l'hôpital, était venu nous parler de ça l'année dernière, on avait la salle pleine. Et donc là, on lui a redemandé, ben, vous nous en faites une autre, et j'ai pas le temps, machin, mais je vous envoie mes collègues, là, ils vous feront... donc, on avait fait là, le débouchage des artères coronaires. Donc, maintenant, on va passer dans la tuyauterie et donc les valves. Voilà. Le docteur Massard, qui est à Sainte-Marie, là, va nous parler, un petit peu comme nous avait fait Paparel, mais disons d'une façon générale, sur la robotique dans la chirurgie. Paparel avait concentrer son discours sur la chirurgie du rein, puisque c'est sa spécialité. Alors, nous avons aussi la chance maintenant d'avoir dans nos fidèles le professeur Maxime Schwartz, qui a été directeur de l'Institut Pasteur, qui est un excellent conférencier, très gentil, très sympa, qui a fait des très beaux bouquins sur l'histoire de l'immunologie, etc., et donc il va nous faire la rivalité, on revient au 19e siècle, hein, la rivalité entre Pasteur et Koch, Koch, si on prononce à l'allemande, où les deux sont symétriques, et dès que la guerre de 70 a éclaté, bon, c'était la guerre scientifique entre ces deux grands scientifiques. Donc, c'est un médecin, lui. Alors, je rappelle une fois de plus que Pasteur n'était pas médecin. Hein. Pasteur est un chimiste qui était normalien supérieur. Hein, et c'est les hasards de sa carrière qui l'ont fait toucher des sujets, disons, de biologie. Deux têtes de lard tous les deux, au niveau du caractère, j'entends. L'astronomie, alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Rosetta, c'est l'année de Rosetta, vous en avez entendu parler dans les journaux. On va reparler de l'évolution des étoiles, donc couleur, température et âge des étoiles, donc avec un diagramme que vous reconnaissez tous, bof, celui-là, hein. C'est le diagramme de Hertzsprung-Russell, hein, et les phénomènes optiques atmosphériques, et là on va revenir sur Newton, puisque le premier qui a bien réussi à expliquer le mécanisme de l'arc-en-ciel, qui n'est qu'un phénomène optique particulier atmosphérique, c'est Isaac Newton. Alors, je redis la théorie de Newton qui est toujours vraie aujourd'hui, les objets n'ont aucune couleur, nous n'avons pas de couleur. La couleur que nous percevons, c'est uniquement la couleur qui est réfléchie par les objets, donc les longueurs d'onde du soleil qui nous frappe ou des lumières qui nous frappent, qui sont réfléchies. Si vous voyez l'écran bleu, là, ici, c'est tout simplement parce que les longueurs d'onde rouges sont absorbées et il n'y a plus que le bleu qui passe. Voilà. Mais il n'y a pas de couleur. C'est difficile à accepter, ça, psychologiquement. Vous le savez très bien, vous prenez une robe rouge avec des lampes rouges dans le magasin d'habillement, vous voyez, votre robe, elle est une couleur indéfinie, évidemment. La transition énergétique. Oh, Dieu sait que c'est encore une tarte à la crème dont on nous gave du matin jusqu'au soir dans la grande presse et surtout chez les politiciens. Je peux vous dire qu'on peut dire qu'il y a 90% des politiciens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je ne parle pas des choix politiques, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, M. Jacques Fosse, qui est déjà venu nous parler beaucoup de radioactivité et d'autres choses, parce que je rappelle qu'il avait la chaire de physique nucléaire au CNAM, dont la première titulaire s'appelait Marie Curie. Hein ? Donc, c'est le sixième descendant universitaire de Marie Curie. Et notre ami Jean-Marie Vigoureux, le très bon, le bon des bons, le champion de la pédagogie de la physique, donc il va nous parler de Kepler qui, donc, comme vous le savez, a trouvé les lois uniquement par des observations et des tables astronomiques, les lois de dire ben, les planètes se déplacent non pas sur des cercles mais sur des ellipses, et avec les règles de vitesse le long de l'ellipse. Et après, Newton, en partant de Kepler, saura mettre des équations derrière les lois de Kepler, en disant, ça démontre, si je prends l'hypothèse de l'attraction universelle, eh bien, je sais démontrer les lois de Kepler mathématiquement, grâce au calcul infinitésimal que j'ai inventé pour ça. Voilà. Les mécanismes d'autodéfense des plantes. Donc, il n'y a pas que les animaux qui ont des systèmes immunitaires, il y a aussi les plantes qui ont des systèmes immunitaires ou des systèmes macroscopiques, comme les épines ou des poisons, des choses comme ça, qui leur permettent de se défendre contre leurs prédateurs, qui sont en général des insectes, des vers, des machins comme ça. Donc, c'est la directrice de l'INRA à Dijon qui va nous parler de ça. Et ensuite, eh ben, on va faire de la diététique préhistorique. Les bases de la consommation alimentaire depuis les Australopithèques jusqu'à l'Homo sapiens. Voilà. Pourquoi ont-ils mangé ceci ou cela? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger. Mais quelles ont été les conséquences sur leur devenir? Voilà. Le CERN, on aura une conférence sur le CERN. et on ira au CERN, voir ce qu'il y a encore à voir. On va parler des lasers. Je rappelle que la fête de la science, c'est la première semaine d'octobre, traditionnellement, et donc on fait toujours une conférence qui a un rapport avec la thématique de la science. Donc cette année, c'est les lasers, d'où ça vient, d'où ça sort, à quoi ça sert. Voilà, et donc c'est quelqu'un de... Alors c'est pas cette personne-là, et c'est une autre personne, mais qui vient également d'Areva, qui nous fera la conférence. Alors, l'an dernier, on avait invité M. Loubet, qui est un universitaire, qui n'a rien de technique, mais qui est un prof d'histoire, et qui nous a fait les spécificités de l'automobile française 1939 à nouveau. Il a développé une thèse qui est assez originale, qui dit « L'automobile française, au moins dans cette époque-là, elle est faite comme ci ou comme ça parce que on est français, et l'automobile allemande, elle est comme ci ou comme ça parce que ce sont des Allemands. » Pour des raisons sociologiques et non pas techniques. Pour faire court, nous on aime bien la belle carrosserie et l'emballage, et les Allemands c'est des motoristes. C'est hyper schématique, mais si je résume la thèse qu'il a développée, elle est assez convaincante. Donc on était parti de Dion-Bouton, et donc on est arrivé péniblement à la Deutsche juste avant la guerre, donc on va repartir de la Deutsche et on va arriver jusqu'à la période actuelle. Le gaz. Tout le monde sait ce que c'est que le gaz. Ben, vous savez tout ce qu'il y a derrière pour avoir du gaz. Il ne suffit pas d'avoir un trou en Sibérie pour que ça arrive sur votre gazinière. Il se passe des choses entre-temps. Et donc, c'est quelqu'un de GRDF qui va nous expliquer tout ça. Voilà. Et dernière chose, le BRGM. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du BRGM ? Bureau de recherche géologique et minière. Vous voyez, vous avez appris quelque chose, vous avez bien fait de venir. Donc ça, c'est un organisme d'État qui synchronisait, si vous voulez, toutes les recherches, comme le dit son titre. Et tout ça, ça a été mis un petit peu en sourdine, parce que aujourd'hui, quand vous dites en France, on va faire une mine... Alors là, la phrase est à peine terminée, que vous avez les banderoles qui se déploient de partout, quelle que soit la chose qu'on veut trouver dans la Terre. Donc voilà. Alors en fait, il faut aller plus loin que cet aspect épidermique, de refaire l'histoire de cette institution et de voir quel est son rôle, si vous voulez. Parce que quand on dit que c'est mis en sommeil, le BRGM a vocation à couvrir le monde entier. Voilà. Je rappelle quand même, dans des conférences antérieures, que la découverte qu'il y avait du pétrole au Moyen-Orient, c'est-à-dire à Mossoul et en Iran, ce sont des rapports de géologues français des années 1870. Mais les seuls qui les ont lus, ce sont les Anglais. Et eux, ils sont allés, ils ont fait des trous. Et nous, on fait des rapports. Voilà. Alors, encore un quiz. Qui c'est celui-là ? Le nom est mis dans la planche. Le sénateur McCarthy. Ah, vous vous souvenez, les furieux de l'après-guerre, là, qui a dit tout ce qui est communiste, même d'une façon subliminale, allez, au newf. Le sénateur McCarthy a fait une chasse aux sorcières, en particulier dans les milieux de la culture, dans les milieux du cinéma, et on faisait appel à la délation pour flinguer les uns ou les autres. Donc, il est allé tellement loin qu'aux États-Unis, même aux États-Unis, ça s'arrête quand même. Dans d'autres régimes, ça continue. Mais là, il y avait des contrepoisons dans le système. Voilà. Et parmi les... Alors je rappelle Paul Genet qui nous fait les conférences de... Paul Genet, c'est le cousin de Jean-Pierre Genet, qui est bien connu, Amélie Poulain par exemple. Et donc il était enseignant dans un IUFM qui parlait de cinéma. Il est passionnant. Il connaît en particulier très bien les arcanes du cinéma américain, d'autant plus que son cousin lui a donné des témoignages qu'il évoque à chaque fois qu'il nous fait des conférences. Alors je rappelle que ces conférences, c'est la conférence elle-même, et après il nous passe des extraits assez longs, soit d'un documentaire qui parle du cinéma, soit d'extraits de films qu'il commente. Histoire du piano. Alors, c'est bien de faire l'histoire du piano, mais on aura un piano et on fait ça au conservatoire. Et le gars qui va nous faire la conférence, il va nous jouer du piano. Hein, voilà. Donc, monsieur Ressigné, on le connaît pas. Enfin, c'est un prof qui n'est pas de Chalon, mais qui sera en résidence au conservatoire. Et donc, notre conférencière une de nos conférencières, Joëlle Farinck, la femme de monsieur, hein, qui est excellente, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle vient, hein, et elle va nous faire Hector Berlioz, à nouveau le 19e siècle, et là, comme on a dit, alors, c'est une année Berlioz aussi cette année, hein, alors, je ne sais plus quel anniversaire c'est, mais à la radio sur France Musique, du Berlioz, du matin jusqu'au soir. Donc. Alors, Berlioz, ben, c'est un personnage aussi bien musical que le personnage lui-même. Hein. Je rappelle que Berlioz, il a fait un manuel de composition musicale qui a servi de référence pendant un siècle après qu'il l'ait fait. C'était le manuel de référence. Le manuel. Manuel. Le mythe de Faust dans la musique romantique. Une heure, une œuvre découverte avec un quatuor Brahms. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait avec Varney, si vous voulez, c'est de faire des conférences-concerts. Parce que parler de la musique dans une salle de conférence comme ça, en passant 3 disques, c'est un peu... Il faut vraiment le conférencier qui a un niaque terrible. Donc Joëlle Farinck, elle sait faire, parce qu'elle a un aspect théâtral, donc elle fait des mimiques, elle chante, elle s'agite beaucoup, donc ça passe. Mais quelqu'un qui fait ça comme un prof de droit et qui passe les 10 les uns après les autres, c'est quand même un peu rasoir. Donc c'est quand même mieux quand on a du live avec quelqu'un des gens qui jouent de la musique. Et en plus, on fait intervenir les musiciens. On a eu des percussions l'année dernière et on est allé sur le plateau et on a discuté avec les percussionnistes et qui nous ont montré comment étaient faits leurs instruments, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça marchait, etc. Donc c'est beaucoup plus vivant que d'écouter ex cathedra une conférence sur la musique. Alors, le premier, c'est lequel, le quiz? Ah, voilà. Et le deuxième? Voilà, Brecht. Il y en a un qui le connaît. Vous voyez, à l'UTB, on fait passer des examens. Hein, donc si les gens ne savent pas, ils ne sont pas admis. Hein. Alors très rapidement, puisque ça fera l'objet d'une présentation le 22 spécifique, comme je fais d'habitude, donc les ateliers. Donc je rappelle qu'au-delà de notre programme de conférence, nous avons des ateliers, des groupes, des machins, des trucs et des bidules. En voici la liste. Hein, je ne rentre pas dans le détail. Donc, première partie de la liste. Deuxième partie de la liste. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Il n'y a pas de nouveauté cette année, au sens de un nouvel atelier ou un atelier en moins. Hein. Donc, on continue sur la lancée. Et je rappelle que ces ateliers, si on fait intervenir une personne extérieure qu'on rémunère, eh bien, il faut payer une cotisation complémentaire pour financer les honoraires de cet intervenant. Donc le cas typique, c'est les ateliers de langue. Par contre, des ateliers qui sont groupe lecture, groupe littérature, qui consistent à analyser des œuvres en commun, et bien évidemment, il n'y a pas de personne de l'extérieur, donc c'est gratuit. Hein, on fournit simplement la salle de réunion, et puis les gens s'auto-organisent. Le principe général de ça, c'est que les gens se fassent plaisir. On n'est pas dans une logique scolaire. C'est-à-dire, si les gens viennent, c'est qu'ils ont envie de venir pour avoir une activité intellectuelle. Voilà, c'est tout. Et donc, si un truc ne marche plus, eh bien, on arrête. Si un truc est demandé qui n'existe pas, on essaye de le monter. C'est aussi simple que ça. Et donc, on fait de la marche, activité hautement intellectuelle, Mensana in corpore sano, et voyage culturel. Bon, j'ai évoqué les projets de grands voyages de l'année prochaine, donc le Brésil. Ce sont des projets. Hein. Donc ça ne marche que s'il y a suffisamment d'inscrits. Le Brésil, Cuba, puisqu'on a eu des conférences sur Cuba. Monique Roux nous a fait ça l'année dernière. Je ne sais pas si elle viendra à Cuba. Elle rigole. Donc un voyage à Bilbao avec Alex Pay, donc un voyage à Vienne avec Damien Capelazzi, puisque les conférences sont là-dessus, et éventuellement un voyage à Budapest. Éventuellement. Ah, voilà les programmes des différentes groupes, lectures, ateliers d'histoire de l'art. Je passe vite, là, ça fait l'objet de l'exposé du 22. Alors, tiens, je m'arrête sur l'atelier d'écriture. Alors ça a eu du mal à démarrer, donc c'est une animatrice qui explique les règles de... Il y a quelques participants ici. Et cette année, ça a bien marché, et le groupe a écrit un recueil de nouvelles. De nouvelles, essentiellement des nouvelles et de poésie, et nous éditons ce bouquin. Et donc, ça va sortir, le bouquin existera physiquement. Vous voyez, on n'arrête pas de faire des bouquins. Une petite fascicule, hein, ça fait 120 pages, un petit format. On l'édite et ça sortira donc le 22, et on pourra l'avoir le 22. Bon, je passe vite, on fait même de l'énologie. Alors, je vais directement... Alors, un dernier point, je vais parler un petit peu du site Internet. Alors, il y a une nouveauté cette année qui va être opérationnelle le 1er octobre. C'est-à-dire, on va avoir la possibilité de s'inscrire à l'UTB sur le site. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule façon de s'inscrire, il faut venir au secrétariat ou d'envoyer son inscription par courrier au secrétariat. Donc, on pourra s'inscrire sur le site Internet. On paiera toujours par le chèque, il faudra envoyer le chèque, mais on fera les démarches ici. Mais on pourra s'inscrire non seulement à l'UTB, mais également aux ateliers, qui est un processus qui est très compliqué, parce qu'avec les petits papillons, c'est un peu galère, si vous voulez. Donc on met ça en place cette année. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, parce que c'est assez complexe du point de vue base de données. Donc je vous en parlerai plus dans le détail dans une séance spécifique. Et surtout, on va mettre en place ce qu'on appelle une formule adhérent distant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent trop loin de Chalon, qui sont à plus de 25 km, qui disent « Ah ben, votre programme, il est génial, mais moi, j'ai pas envie de me taper 60 km aller-retour pour venir écouter quelqu'un dans une salle à Chalon. » Vous savez qu'on enregistre le son et on prend les images de tout, en principe, la quasi-totalité de nos conférences. Aujourd'hui, on peut les lire et les écouter sur le site. Donc, on va faire une formule qui permet à des gens qui sont loin de pouvoir avoir accès à ça. Mais par contre, pour attirer un petit peu ce nouveau public, on fait une cotisation qui sera plus faible que la cotisation des gens qui viennent ici. Donc, la cotisation des gens qui viennent ici est de 80 euros. Et là, la cotisation sera de 50 euros seulement. Et on n'aura que le son et l'image, mais on ne vient pas ici. On va mettre ça en place. Et là, comment on va communiquer? C'est pour ça qu'il nous fallait la fonctionnalité de s'inscrire sur le site, parce que quelqu'un qui est à 100 km, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à Dubaï, qui écoute et qui lit nos conférences. Et il a payé 80 euros, parce que la formule n'existait pas. Mais il y a des gens qui sont intéressés par... Alors, c'est pas un nombre extraordinaire, mais c'est par notre réseau relationnel qu'on a détecté ce besoin-là. Alors, le site, ben, vous le connaissez, j'ai mis quelques images ici. Hein. Donc, le site, il est consultable chez vous, mais également, je ne sais pas si j'ai mis une image, voilà la description d'une conférence, voilà... La localisation de la salle, vous la connaissez tous. Les détails de la conférence, vous voyez là, ici, quand vous cliquez sur « Documents », eh bien, vous pouvez télécharger le document. Quand vous cliquez sur « Son », « Audio », là, vous pouvez écouter la conférence sur le site. Et ce que vous pouvez faire également, c'est que si vous avez ces petits engins magiques ou diaboliques, suivant le point de vue des uns ou des autres, vous pouvez consulter sur votre téléphone la conférence qui va venir, etc., les informations sur ces petits appareils-là. Ça, c'est sympathique. Il faut vous habituer, mais voilà, c'est comme ça. Bon, je vous remercie. Alors, j'accepte les questions. Y a-t-il des questions? C'est clair. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire sera sur le site et toutes les images que vous avez vues sera également sur le site. Donc, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, eh bien, vous consulterez sur le site. Voilà. Merci.